Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
Vous écoutez
Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Ah, Vincent, nouvelle de dernière heure, l'Ontario qui vient d'imiter l'Alberta, ce que l'Alberta avait annoncé tôt ce matin.
Oui, c'est le directeur de la santé publique en Ontario, Dr. David Williams, qui, dans les dernières minutes, là, a confirmé que, présentement, on prenait une pause, là. On arrêtait la vaccination d'AstraZeneca en raison de ces caillots sanguins, parce qu'on, ce qu'il a expliqué, c'est que le taux présentement calculé est de 1,7 par 100 000 et que c'est plus haut que ce qu'on avait anticipé.
Parce qu'on n'est pas à 1 sur 200. 150 000, après ça, 1 sur 100 000, puis ils disent 1,7 sur 100 000.
1,7, alors l'Ontario qui suspend la vaccination à AstraZeneca. Il faut dire, par contre, c'est la même situation qu'au Québec.
Ils l'ont suspendu ce matin, je pense qu'il en restait 8 000 doses. Il en restait quelques boîtes. Là.
Et si on parle dans les prochaines semaines, on sait qu'on va recevoir 2 millions de vaccins ou 2,5 millions de vaccins Pfizer par semaine. Et pour l'instant, de l'AstraZeneca, il n'y a pas d'arrivage qui s'en vienne. Alors, c'est un peu les doses restantes.
Mais tantôt, tu me décrivais que dans le cas du Québec, il y a encore les gens vont sur Clic Santé, là, ils traînent encore des rendez-vous 45 ans et plus à AstraZeneca.
C'est ça. Un peu partout, vous allez, si vous ouvrez Clic Santé, vous allez voir là vos pharmacies, centres de vaccination de votre région et le 3 quarts, dans bien des cas, c'est du AstraZeneca 45+. Mais là, tu te dis, qui va chercher ça dans la mesure où présentement, ceux qui, les 45+, ont déjà en général pris leur rendez-vous. Et ce qui reste, c'est les plus jeunes qui n'ont pas accès au AstraZeneca de toute façon. Donc, on les laisse là. En fait, on écoule peut-être des doses à des gens qui s'en rendent plus compte. Là. Ils vont cliquer. Parce que là, présentement, l'avantage du temps serait surtout pour les plus jeunes qui pourraient essayer de passer un petit peu plus vite.
Mais on veut pas que les plus jeunes aient AstraZeneca.
Ils sont pas là. Alors, est-ce qu'on va le baisser au Québec? On peut en douter, voyant ce que fait l'Ontario.
C'est peut-être la fin du AstraZeneca. Parce que là, l'Ontario dit, de toute façon, les gens qui ont reçu une première dose d'AstraZeneca, c'était correct, parce qu'à ce moment-là, on manquait de doses. Mais pour la deuxième dose, ils vont en avoir en masse. De plus en plus, le consensus scientifique semble dire, c'est pas mauvais. Il y a même des gens qui disent que c'est bénéfique d'avoir des vaccins différent à la deuxième dose. Je sais pas, je commence à penser que du AstraZeneca, il n'y a peut-être plus un gros avenir. Là.
Mais est-ce qu'on verra les États-Unis, le Canada, des pays avoir un désintérêt pour l'AstraZeneca et que ce soit le vaccin qui soit envoyé en urgence dans des pays qui en arrachent, comme le Brésil ou l'Inde? On risque d'avoir des avions remplis d'AstraZeneca.
C'est un peu ce que la science dit, là. T'sais, c'est un peu ce que la science dit, que c'est un vaccin vraiment utile pour...
Parce que c'est plate d'envoyer un vaccin qui est plus problématique aux pays pauvres, mais on comprend que l'effet est plus...
Oui, la logique scientifique, c'est si t'es très à risque d'attraper la COVID puis t'as pas d'autres vaccins disponibles, ben là, le vaccin AstraZeneca devient un excellent vaccin. Là.
Et quand t'es en éclosion dramatique...
Mais là, ici, la COVID est en baisse, puis t'as plein d'autres vaccins en quantité. Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir de la demande de la population pour l'AstraZeneca? À mon avis, ça va devenir de plus en plus faible, là.
Ben, oui. Enfin, si les autres fournissent, effectivement. Donc, est-ce qu'on verra un don soudainement des grands pays riches vers les pays pauvres du AstraZeneca? Peut-être c'est le vaccin qu'on vantait comme étant plus accessible aussi. C'est le moins cher.
Oui. Plus facile. Il y a bien des qualités. Il est plus facile à manutentionner, à réfrigérer, etc. Mais bon. Vaccination, donc on le répète, la vaccination pour les 25 ans et plus, c'était demain matin la date, mais déjà à cette heure-ci, c'est ouvert.
Oui, et je trouve ça drôle parce que même des fois, Christian Dubé ou François Legault vont tweeter dans la soirée à partir de demain, mais c'est qu'ils ont...
C'est déjà ouvert.
C'est déjà ouvert. Et même en point de presse tantôt, on dit à partir de demain, les 25-30, les 25-29, mais sachez-le, c'est déjà possible pour vous de prendre votre rendez-vous depuis un peu plus d'une trentaine de minutes. Donc, sur Clic Santé, vous avez accès au téléphone également. Sachez par contre qu'évidemment, en baissant de catégorie d'âge aux 2 ou 3 jours, ça met quand même
ça sous pression. Ça prend des rendez-vous, là, ça vide la banque de rendez-vous.
Donc, c'est sûr que pour les 25-29, faudra chercher parfois un petit peu plus loin dans les dates ou attendre un peu.
Quand la liste a été présentée, mon fils de 21 ans était bien content de la... de voir qu'on fixait des dates, puis que le 14 mai, il pourrait... Mais quand il regardait ça, il disait, ouais, OK, là, les 35, les 30, les 25, tout le monde va être passé. Il dit que quand on va arriver le 14 mai, je sais pas qu'est-ce qui... Il se préparait à avoir une date quelque part au mois de juin, là.
C'est un gros show, là, puis tu seras pas par terre, là. Tu sais que tu vas être dans les rouges au loin, là.
T'es loin dans la file d'attente pour l'achat des billets, là.
Mais peut-être, on le sait. D'ailleurs, il y a un outil, le Vaccélérateur, là, qui est entre autres sur les réseaux sociaux, qui publie toujours les places qui se libèrent dépendamment de vos régions. Ça peut être un outil intéressant que j'ai pas testé à suivre pour essayer de trouver des fois une place.
Mais l'outil plus simple, c'est que tu vas, si tu es dans une ville, puis il y a un gros site de vaccination, un gros centre de vaccination, retourne à toutes les heures, toutes les deux heures, toutes les deux heures. Quand t'as du temps libre, retourne voir. À un moment donné, quelqu'un va avoir annulé. Dès que quelqu'un annule, la plage se libère, tu peux sauter dessus et devancer ton rendez-vous.
Oui, ça fonctionne bien. J'en ai plusieurs, moi, qui étaient prévus fin mai, là, des amis qui se sont devancés cette semaine ou même si c'est déjà fait. Donc, soyez à l'affût et vous vous ferez vacciner. Sinon, ben, patience encore un peu.
La situation qui se détériore en Israël.
Oui, vraiment. Vous verrez dans les bulletins de nouvelles, là, ce soir, des images impressionnantes, là, dans le ciel.
Tirs de roquettes.
Effectivement, à Tel Aviv, tirs de roquettes. Et on sait qu'il y a un système antimissile israélien, là, l'Iron Dome, qui envoie qui réussit la plupart du temps à détruire ces roquettes-là avant qu'elles frappent le sol. Ça donne un spectacle dans le ciel impressionnant et terrifiant en même temps. Malheureusement, pour les Israéliens, à certains moments, ben, les roquettes réussissent quand même à atteindre le sol et on est rendu au moins à un bilan de 3 décès dans les dernières heures. Et suit ces attaques-là des répliques, évidemment, des Israéliens, répliques toujours extrêmement puissantes, qui ont coûté la vie à au moins 28 Palestiniens dans les dernières heures sur la bande de Gaza. Opération effectuée avec des avions de chasse, des hélicoptères de combat. On parle également de 125 blessés. Le premier ministre Benjamin Netanyahou qui a haussé le ton aussi, là, je le voyais, il fait un nouveau point de presse dans les dernières minutes et promet carrément une raclée au Hamas. On est prêt à mobiliser des milliers de réservistes aux besoins dans les prochaines heures. Et on sait, c'est une escalade comme on n'avait pas vu depuis un bon moment au Moyen-Orient, de sorte qu'à l'international, il y a beaucoup d'inquiétudes. Le Conseil de sécurité des Nations unies souhaitait en arriver à une déclaration commune. Les États-Unis, par contre, qui est évidemment un allié d'Israël, n'ont pas voulu, pour l'instant, faire un message public à ce stade, disons, des hostilités. Mais il y a une grande nervosité à l'échelle internationale sur ce qui se passe là-bas et qui semble se dégrader grandement depuis plusieurs heures.
Procès d'un homme pour harcèlement envers la sœur d'Eugénie Bouchard, Charlotte.
Oui, c'est toute une histoire. Dany Arsenault était donc au palais de justice de Montréal pour harcèlement contre Charlotte Bouchard, lui qui est accusé de l'avoir harcelée et de façon vraiment, écoute, très, très intense entre 2014 et 2017. Lui qui aurait utilisé plusieurs pseudonymes et inondé la page Instagram de Charlotte Bouchard dans l'espoir d'avoir une relation avec elle. Le problème, quand je vous dis écrire souvent, là, c'est 150 commentaires sous certaines publications, à coup de 50. Des commentaires sur un peu tout, souvent gentils, des fois beaucoup plus explicites. Très, très obsessif, au point où il publiait également des photos à côté de son lieu de travail. Alors, elle était évidemment très inquiète, ne sachant même pas de quoi il avait l'air. Alors, elle dit qu'elle avait peur. Dès qu'elle voyait un homme la fixer quelques instants, elle s'imaginait que c'était lui. Elle qui a quitté maintenant Montréal, là, elle habite à Londres, témoignait par visioconférence, et lui disait que c'est de sa façon de courtiser les femmes. Comme ça, de leur écrire. Il dit l'avoir fait avec plusieurs vedettes et qu'il était honnête et limpide dans le but de séduire. Et qu'il a quand même, faut dire, des antécédents psychiatriques. Mais il dit ne pas vouloir les invoquer pour l'instant. Il se représente seul. Alors, ça donne ce que ça donne. Le procès, donc, qui se poursuit cette semaine. Lui devrait possiblement témoigner dans les prochaines heures, si c'est pas d'ailleurs en cours son témoignage.
C'est le jour du recensement aujourd'hui au Canada.
Absolument. Donc, on invite les gens à participer au
Remplir votre recensement. Faut y penser. C'est aujourd'hui.
Effectivement.
Et c'est aujourd'hui, c'est la date, là. C'est en date d'aujourd'hui combien il y avait de personnes dans votre maison puis tout ça. C'est vraiment, quand on dit le jour du recensement, le Polaroid, là.
C'est quoi les étapes, là, quand on le fait pas, là, le recensement?
Sincèrement, je ne le sais pas tant que ça. Je pense qu'ils vont te courir après.
Il n'est peut-être pas en prison tout de suite, là.
Non. Non, il n'est pas en prison demain matin, mais okay. Il court après. Délai. Mais c'est un peu une espèce de devoir civique simple, là. C'est assez. Moi, je l'ai faite, là. C'est vraiment. C'est pas un gros effort.
Non, non, c'est ça. Ça
tu recopies ton petit code de 12 ou 14 ou 16 chiffres.
Ça se fait très bien en ligne.
Oui, facile.
Même pas besoin d'acheter un timbre.
Les fleurs LED sont victimes.
Oui, alors que vous pensez peut-être à vos boîtes à fleurs ou vos plates-bandes, sachez qu'au niveau scientifique, il y a une inquiétude. Étude publiée dans le magazine Nature Plants, là, qui s'adresse aux scientifiques dans le domaine de la nature des.
Tu parles d'inquiétude. On va pas mal dormir après avoir vu cette nouvelle-là.
Je pense pas. Okay. Je pense pas, Mario, mais quand même un peu.
Okay.
Parce que ces chercheurs-là ont analysé des centaines de recherches sur les plantes, particulièrement les fleurs, dans les à peu près 50 dernières années. Pour remarquer que, devine quoi, les scientifiques ont un biais pour les belles fleurs. Et étudient pas les fleurs LED.
Mais voyons.
Alors, il y a très peu de recherches sur des fleurs. C'est une fleur brune, une fleur verte ou une fleur, un tas de mousse. Des plantes qui impressionnent personne, elles sont très peu étudiées.
Il n'y a pas beaucoup de fleurs brunes quand même.
Ben c'est peut-être parce que justement parce qu'elles sont négligées.
Ouais.
Mais il y a des fleurs brunes. Je te le confirme. Et alors, en étudiant, on se rend compte que de un, la fleur la plus étudiée, ce sont le bleu qui semble intéresser beaucoup les chercheurs, le blanc, le rouge, le rose. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que on se retrouve à avoir, pour les plantes non charismatiques, c'est le terme utilisé par les chercheurs, ou les plantes plates, ce sont souvent des plantes extrêmement utiles pour leur écosystème, mais comme elles sont sous-étudiées, se trouvent également sous-protégées. Alors, dans plein d'écosystèmes, où elle joue un rôle beaucoup plus important que des belles fleurs jolies qui sont étudiées, protégées, qui ont dont les écosystèmes.
Donc, si tu veux te construire un bâtiment industriel là, dans une zone supposément protégée,
oui.
Surtout que les fleurs sont lettres.
Oui,
plus de chances d'obtenir ton dézonage.
Tout à fait. On dit entre autres en Australie, il y a une plante LED, la milkweed, qui est très importante pour les papillons, les chenilles également. Donc, dans plusieurs pays, ce sont une sorte de mousse avec des petites fleurs LED, super importantes pour les habitats et les écosystèmes fragiles, de sorte qu'on invite certaines sortes de champignons visqueux aussi à attirer peu les chercheurs. Alors, les chercheurs devraient passer au-delà de la beauté et plutôt étudier les plantes qui sont utiles dans leur écosystème.
Et un petit mot sur le nouveau bateau de Jeff Bezos.
Écoute, Jeff Bezos,
l'homme le plus riche au monde, là.
L'homme le plus riche au monde, ça vaut plus de 150 milliards, Jeff Bezos, et il s'est acheté un yacht qui passe pas inaperçu.
Imagine si ça marche Amazon, si ça se met à marcher Amazon, l'argent qu'il va faire dans l'avenir.
Ben, je pense qu'il va être correct pour un bout, parce qu'il s'achète un yacht de 417 pieds pour un demi-milliard de dollars. Un demi-milliard, ouais. 500 millions de dollars, le yacht. Enfin, il est tellement grand, le yacht, qu'il a besoin d'un side yacht. Pas un petit bateau, là, un yacht, mais à côté du yacht, parce qu'il est trop gros pour atteindre, entre autres, s'approcher des côtes, certaines problèmes. Alors, il y aura l'immense yacht de 400 pieds, un yacht un peu plus petit qui est pas dans le prix du 500 millions. On l'appelle pour l'instant le projet 721. Alors, on a peu de détails. Vous dire, par contre, que
c'est... Que toi et moi, il pourrait nous faire un bassin dans son yacht pour qu'on fasse du ponton, là.
tout à fait raison. Le problème, j'ai une question pour toi, parce que c'est loin d'être le plus gros yacht au monde. Le Eclipse, c'est le plus gros de Roman Abramovich, un milliardaire russe qui vaut 1,5 milliard de dollars son yacht. Et ma question, si tu as 150 milliards, Mario, pourquoi tu mets 500 millions sur ton yacht? Qu'est-ce que tu vas t'acheter d'autre de plus cher? Il a payé ça le double du prix du Washington Post, quand même, faut le dire. Mais... toi, t'es du genre à acheter un yacht de seconde main, même si tu vaux 150 milliards. Mais moi, ça, je le comprends pas.
T'as acheté un yacht plus cher, toi?
Ben là, t'as 150 milliards. Tu peux en mettre 5 sur ton yacht. Qu'est-ce que tu vas t'acheter d'autre d'aussi gros? T'as déjà 8 maisons.
Tu manques d'imagination.
Ben, tu fais un porte-avions yacht, t'arrives avec ton, je sais pas, mais 500 millions, je le trouve un peu chiche.
Tu retiens ça.